9h-10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, dans C'est arrivé demain, deux sujets d'avenir. D'abord le grand âge et la dépendance, question qui touche tous les Français parce que le nombre des plus de 85 ans va exploser dans les années à venir et que personne ne peut se résoudre à voir ses parents ou grands-parents finir leur vie dans des conditions épouvantables, voire tragiques, comme on l'a vu ces derniers jours avec les 5 morts intoxiqués dans un établissement près de Toulouse. Quelle est la situation réelle des EHPAD? Où trouver l'argent et les personnels? Faudra-t-il travailler un peu plus ou plus longtemps si on ne veut pas taxer davantage? Avec nous, l'un des meilleurs spécialistes du vieillissement, Luc Broussy, à la veille de la restitution du grand débat. Et juste après, un Frenchie devenu l'une des grosses têtes de la Silicon Valley, Luc Julia. Il a débuté au CNRS, puis est parti chez Apple, où il a inventé Siri.
Bonjour, Button Tag, hello, buenos dias. Belle matinée à vous. Nous sommes le dimanche 7 avril 2019.
Aujourd'hui, il est vice-président de Samsung. Et cet homme qui a écrit une part de l'histoire des nouvelles technologies affirme que non, les robots ne prendront pas le pouvoir. L'intelligence artificielle n'existe pas, c'est le titre de son livre. Demain, enfin, les 30 ans de Tiananmen, massacre toujours tabou en Chine. Le dissident Liao Yiwu en sait quelque chose. Il a fait 4 ans de bagne pour un simple poème sur Tiananmen. Exilé en Europe, il témoigne et dénonce ce que continue de bâtir Xi Jinping, une impitoyable prison à ciel ouvert.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Dans 10 ans, et pour la première fois dans l'histoire de France, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Et en 2050, dans 30 ans, les plus de 85 ans seront 3 fois plus nombreux qu'aujourd'hui, soit près de 5 millions de personnes. Comment faire face à ce vieillissement massif? Bonjour Luc Broussy.
Bonjour.
Vous dirigez le centre de réflexion Matière Grise, membre du Conseil d'orientation de la concertation qui vient de rendre son rapport au gouvernement. D'abord, la situation actuelle. Environ 20% des plus de 85 ans résident en EHPAD. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe. Comment ça se fait?
D'abord, il faut voir la différence entre la maison de retraite des années 80-90 et l'EHPAD d'aujourd'hui. Et cette différence, c'est d'abord et avant tout que, et vos auditeurs le savent, ils le vivent parfois au quotidien, on entre en maison de retraite aujourd'hui, en EHPAD, quand on ne peut plus faire autrement. Avant, on y entrait parce qu'on ne pouvait pas marcher toute seule. Aujourd'hui, on y entre essentiellement parce qu'on est désorienté, on a une maladie neurodégénérative, on a la maladie d'Alzheimer, pour faire court.
Oui, c'est beaucoup.
Voilà. Et donc, le profil même des personnes a profondément évolué et beaucoup plus grave qu'avant.
Oui.
Ce qui crée évidemment une ambiance différente.
Mais encore une fois, je reviens à la comparaison européenne. Dans des pays voisins, il y a davantage de solutions qui permettent à ces personnes âgées, y compris dans des situations de dépendance, de vivre chez elles.
Alors, il est vrai que nous n'avons peut-être pas suffisamment en France insisté, organisé des véritables services d'aide à domicile structurés. C'est probablement ce que nous devrons faire dans les prochaines années.
Donc, c'est l'un des enjeux de la future réforme davantage
si,
à domicile.
Même si vous me permettrez quand même de tordre le cou une expression que vous avez eue tout à l'heure. Non, en maison de retraite, les 600 000 personnes qui sont hébergées aujourd'hui ne vivent pas dans des conditions épouvantables.
Non, mais
ce n'est pas possible de laisser penser aux familles qu'entrer en maison de retraite aujourd'hui, c'est entrer dans une sorte d'enfer. Évidemment qu'il y a des sujets, des problèmes, qu'il y a parfois des drames, qu'il y a parfois, on l'a vu, vous l'avez dit récemment, y compris des actes totalement isolés de maltraitance, le type qui pète un câble, enfin comme c'est arrivé récemment, et c'est évidemment condamnable, une intoxication alimentaire auquel personne ne peut parer en maison de retraite comme ailleurs, mais dire que les conditions aujourd'hui sont épouvantables, c'est désespérer ceux qui travaillent tous les jours. Ceux qui travaillent tous les jours. 600 000 Français travaillent aujourd'hui, tous les jours, au quotidien, auprès des personnes âgées fragiles dans les EHPAD. Et on ne peut pas leur dire à eux que le travail qu'ils font est détestable.
C'était plus une question d'image que de situation réelle, ce que je décrivais. Vous pouvez convenir, Luc Broussy, que l'image de ces EHPAD s'est considérablement dégradée ces derniers mois et ces
Absolument.
Dernières années, à la faveur de faits divers comme celui que j'évoquais il y a
non
un
mais
instant.
Je le concède parfaitement, l'espèce d'EHPAD bashing ne rend service à personne. Il faut que, évidemment, chacun soit vigilant, il faut que les Français soient vigilants par rapport à l'état des établissements, mais il faut ensemble construire l'avenir.
Alors, on parle de personnel souvent débordé et épuisé. Quel est le taux d'encadrement? Combien d'infirmiers et d'aides-soignants en moyenne pour 100 lits?
Alors, pour être très clair, on a à peu près aujourd'hui pour 10 résidents, 6 salariés, dont trois personnels soignants.
Oui.
Ouais. Donc, six salariés, parce qu'il n'y a pas que des soignants. Il y a des personnels d'animation, de restauration. Donc, et
donc,
là, pour le coup...
30 aides-soignants et infirmiers pour 100 lits.
Absolument.
C'est, là aussi, c'est moins que chez les voisins.
Absolument. Alors,
on est à 40, à peu près.
Le 0,6 est à peu près équivalent à d'autres pays européens. Mais c'est vrai que nous avons un déficit de personnel soignant en EHPAD. Et dans les propositions qui viennent d'être formulées à Agnès Buzyn, il y a clairement cette priorité, augmenter les ratios de personnel soignant dans les EHPAD.
Ça veut dire que dans l'immédiat, il faudrait recruter plusieurs dizaines de milliers de personnes, ce qu'essaient de faire les EHPAD et qui n'arrivent pas. Hein. Deux EHPAD sur trois ont au moins un poste non pourvu depuis 6 mois ou plus.
Mais absolument, et c'est bien un des sujets. Ce secteur peut demander des moyens supplémentaires, mais ces moyens supplémentaires, c'est pour payer des personnes supplémentaires. Aujourd'hui, le secteur n'est pas suffisamment attractif. 180 000 créations d'emplois entre maintenant et 2030, dans les 10 ans qui arrivent, 180 000 créations d'emplois. Mais si en face, les vocations se perdent et que les jeunes ne veuillent pas embrasser ce type de carrière, on aura un réel problème.
Je reviens à la situation de certains EHPAD, Luc Brossy. Le manque de personnel, le manque de temps, ça n'explique pas... parfois, les repas immangeables et d'autres services qui font défaut. Il n'y a pas une course à la rentabilité entre groupes propriétaires d'EHPAD.
Mais ce serait vrai si 100% des maisons de retraite étaient privées. Ces maisons de retraite commerciales, c'est 20% des maisons de retraite. Donc, si le problème se résumait à ça, ça se saurait. Et puis moi, je veux dire aussi quand même que, pour avoir un peu de recul, si vous me permettez, puisque je suis dans ce secteur depuis une vingtaine d'années, le progrès... systématique qu'il y a eu. Moi, je sais bien que les Français aujourd'hui soient critiques et aient un regard attentif sur la situation des EHPAD. Mais ça n'enlève pas le fait que depuis 10-15 ans, les progrès ont été considérables en termes architecturaux, en termes de formation des personnels, en termes y compris de qualité de restauration, excusez-moi de le dire. Mais de manière générale, les établissements, qu'ils soient publics ou privés, ont connu, grâce au pouvoir public, qui ont rendu les normes de plus en plus contraignantes, mais l'état des EHPAD d'aujourd'hui est bien meilleur qu'il y a 10 ou 15 ans. Ce qui change, c'est que, un, la population accueillie est beaucoup plus fragile, et puis deux, et c'est plutôt une bonne chose, que les Français aujourd'hui sont beaucoup plus regardants, attentifs à cette situation.
Luc Brossy, vous restez avec nous pour la question qui suit logiquement, alors que tout le monde réclame des baisses d'impôts et de taxes face au vieillissement, qui va payer des milliards ?
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain. Europe 1.
Le dimanche, de 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen avec C'est arrivé demain sur
demain,
Europe 1.
Demain, le choc du vieillissement, le choc, la bombe ou le mur qui se rapproche, c'est comme on voudra, le mur, c'est l'expression utilisée régulièrement par la ministre Agnès Buzyn. Avant de voir où trouver l'argent, Luc Brossy, une idée qui ne coûte rien suggérée dans le rapport Libault, changer le nom des EHPAD pour les appeler maisons du grand âge ou maisons médicalisées des seniors, c'est un gadget ou c'est une bonne idée ?
Disons que mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, disait Albert Camus. Je ne suis pas complètement certain non plus que ce soit la priorité au moment même d'ailleurs où le mot EHPAD, qu'il soit bon ou mauvais, commence à passer maintenant dans la culture populaire. On le trouve dans les films, dans les romans. Est-ce que c'est la priorité ? Je ne suis pas certain.
Bon, oui, mais au moins, ça, comme je disais, ça ne coûte rien. Alors, l'argent, pour ce que l'on doit à nos aînés, pour des fins de vie décentes, les besoins sont considérables. Presque 10 milliards d'euros par an d'ici à 2030, c'est ça ?
Ah bah, en tout cas, il y a des besoins de financement, évidemment, très, très importants. Il faudrait d'ailleurs... d'une certaine manière, mettre fin à cette forme de schizophrénie française. Il ne faudrait d'ailleurs pas que cette schizophrénie devienne une tartufferie. Vous l'avez dit, on a des besoins considérables. Tout le monde considère qu'on ne prend pas suffisamment en compte les personnes âgées, qu'il n'y a pas suffisamment de personnel. Puis en même temps, personne ne veut payer. Les Français eux-mêmes ne veulent pas qu'on touche à leur patrimoine. Vous disiez dans le journal précédent que si la sortie du grand débat, ce serait comment payer moins d'impôts. Et on voudrait en même temps doubler les ratios de personnel en EHPAD. Il y a juste une toute petite contradiction qu'il va falloir quand même entre nous qu'on puisse traiter.
Bon, bah, donc si on dit pas de taxes en plus, pas d'impôts nouveaux, assez logiquement, plusieurs voix de la majorité, dont le Premier ministre lui-même, Édouard Philippe, ont dit peut-être faudrait-il songer à travailler un peu plus, Luc Brossy. Une nouvelle journée de solidarité, par exemple.
Non, mais ça, c'est une situation, enfin, c'est une solution totalement, je le dis. Très calmement ridicule.
Pourquoi ?
Mais parce que ça rapporte 2 milliards.
Ah oui,
alors, si vous voulez 5 journées de solidarité, là, on en reparle. Oui. Et si vous me parlez d'une journée de solidarité, on évacue le débat, ça n'a aucun sens.
Donc, travailler plus longtemps.
Alors, je ne sais pas. Ce que je sais, en tout cas, c'est que le gouvernement, sur au moins un point, a bien travaillé. Il vient de proposer 175 propositions extrêmement concrètes qui ne sont évidemment pas sorties sans l'accord préalable du président de la République et du Premier ministre. Donc, je ne vois pas le gouvernement, autour d'Agnès Buzyn, très volontaire sur le sujet, sortir 175 propositions la semaine dernière et expliquer dans 6 mois « Ah, au fait, on avait oublié, hein. Il n'y a pas 1 euro pour financer tout ça. Ce ne serait pas possible. » Donc, il faut trouver cet argent et on va le trouver.
Et donc, la solution proposée dans le rapport Libault, c'est un recyclage de la CRDS. Donc, la CRDS, c'est cette contribution inventée pour, familièrement, reboucher le trou de la Sécu, qui doit normalement finir d'être rebouché en 2024. Et donc, il suffirait de prolonger cette taxe et cet impôt.
Voilà,
c'est l'idée.
C'est une taxe que tout le monde paye déjà aujourd'hui, jusqu'en 2024, pour, comme vous le dites, boucher le trou de la Sécu. Bonne nouvelle, il est d'ailleurs plutôt maintenant en équilibre. Elle est plutôt en équilibre, cette sécurité sociale. Donc, il suffirait, à prélèvement constant, on n'augmente aucune taxe, on continue à payer la même. Sauf que on change la direction du tuyau.
Oui.
Aujourd'hui, le tuyau, il va pour boucher le trou de la Sécu. Demain, le tuyau irait pour financer la dépendance.
Oui. Sauf que du point de vue des comptes publics, ça revient quand même à créer un nouvel impôt.
C'est ce qu'expliquent les experts de Bercy. Mais ce n'est pas ce que sentiraient les Français, puisque la taxe qu'elles payent aujourd'hui serait inchangée.
Oui.
Sauf qu'entre-temps, eh bien, on aurait là, pour le coup, 10 à 15 milliards d'euros. Parce que c'est quand même ça, le niveau de la CRDS aujourd'hui. On aurait 10 à 15 milliards d'euros pour financer.
Oui.
Mais on ne peut pas à chaque fois expliquer en première partie qu'il manque des moyens en établissement, que le nombre de personnes âgées dépendantes va doubler dans les 15 prochaines années et expliquer qu'il n'y a jamais 1 euro pour réaliser ces objectifs.
Inconvénient au passage, cet argent utilisé aujourd'hui donc pour reboucher le trou de la Sécu n'entre pas dans le calcul du déficit public, ce qui évidemment serait le cas. Ça
oui,
rentrerait
mais...
dans les comptes et dans le pourcentage de déficit, ça ferait 0,4 points de PIB de déficit en plus.
Hein. Mais vous avez raison, mais vous voyez bien que ces arguments techniques ne pèsent pas grand-chose par rapport à quelque chose quand même qu'on présente comme une catastrophe, mais qui est un progrès considérable. On va vivre dans notre pays de plus en plus longtemps en bonne santé. On va aujourd'hui vivre en moyenne 84, 85, 86 ans, quand dans certains pays du monde, en 2019, l'espérance de vie est encore de 52 ans. Donc arrêtons de transformer en catastrophe ce qui est un immense privilège encore des Français sur Terre.
Dans ce financement et dans cet argent supplémentaire, Luc Brossy, est-ce qu'il est prévu d'aider les familles qui ont du mal à payer les pensions pour leurs aînés dans
les
EHPAD.
Il y a une mesure, effectivement, dans le rapport Libault qui est extrêmement concrète. C'est 300 euros par mois de plus pour les résidents qui ont entre 1 000 et 1 500 euros par mois. Il faut bien comprendre que dans notre pays, les plus pauvres sont pris en charge par le département, que les plus riches peuvent payer. Et qu'entre les deux, voilà, les retraités moyens, c'est eux qui ont besoin d'une aide. Et je dirais un mot, ceux qui ont besoin aussi d'une aide, ce sont les aidants eux-mêmes. Certains sûrement sont en train de nous écouter en ce moment. Que vous soyez conjoint de personnes dépendantes, que vous soyez enfant de parents Alzheimer, la vraie souffrance aussi est parfois non pas seulement sur la personne âgée elle-même, mais sur son entourage. Et toutes les mesures qui pourront demain accompagner, mieux soutenir les aidants sont des mesures absolument urgentes et indispensables.
Merci beaucoup Luc Brossy. Je rappelle que vous dirigez le Think Tank, on dit le centre de réflexion en français, Matière Grise. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet ce matin, direct sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, Luc Julia, il est vice-président de Samsung, il est l'inventeur de Siri chez Apple. Oui, c'est un Français et il a des idées décoiffantes sur l'avenir de l'intelligence artificielle. À tout de suite.
Europe 1. C'est arrivé demain, on se poursuit jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Luc Julia.
Bonjour.
Aujourd'hui vice-président innovation de Samsung, vous dirigez le centre de recherche du géant coréen qui vient d'être installé à Paris. Vous avez participé au développement de Siri, l'assistant vocal de l'iPhone, et vous avez publié il y a quelques mois « L'intelligence artificielle n'existe pas chez First ». Je voudrais d'abord que vous nous parliez de votre parcours. Vous avez grandi à Pibrac, près de Toulouse. Vous avez l'âge, 53 ans, d'avoir connu la vie avant Internet, mais vous avez commencé à vous intéresser à l'intelligence artificielle bien avant Internet.
Oui, enfin, je me suis intéressé à ce que maintenant on pourrait appeler l'intelligence artificielle, bien avant, parce que c'est tout ce qui était robot, tout ce qui était les assistants, les choses qui peuvent nous assister. Et donc, ces choses qui, si elles nous assistent, elles sont peut-être intelligentes.
À 10 ans, vous imaginez fabriquer un robot pour faire votre lit à votre place, qui, une machine qui borde les draps et les couvertures ?
Oui, mais c'était à 9 ans. Oui,
et
c'était, oui, ça m'a pris beaucoup plus de temps de fabriquer la machine que de faire le lit. Hein. Mais c'était rigolo. C'était juste quelque chose pour montrer que c'était possible et justement qu'on pouvait fabriquer ces robots, avoir des machines à notre disposition.
Vos études vous conduisent à un DEA d'intelligence artificielle, puis vous intégrez le CNRS. Qu'est-ce qui vous a dégoûté de ce lieu qui est... l'un des plus prestigieux de la recherche française. Qu'est-ce qui vous a conduit aux États-Unis, Luc Julia ?
Ce qui m'a fait partir, c'était la non-collaboration. Le fait que mon rêve, c'était de rentrer au CNRS et c'était de collaborer avec ces chercheurs qui étaient extraordinaires, qui sont extraordinaires. Mais on m'a vite expliqué que la collaboration avec les autres labos du CNRS était impossible. Et ça, c'est ça qui m'a dégoûté. Donc, en fait, oui.
C'est-à-dire que chacun est dans son couloir.
Chacun est dans son couloir, dans son domaine, dans sa spécialité. Non seulement on ne peut pas collaborer à l'intérieur d'une équipe, mais en plus on ne peut pas collaborer avec d'autres équipes qui font des choses similaires. Et c'est très dommage, parce que l'émulation est beaucoup plus importante qu'une seule personne.
Et vous êtes absolument convaincu que c'est dans l'émulation, la discussion, l'échange... que les grandes idées naissent et que les grands projets arrivent.
Ah bah oui, j'ai aucun doute sur ça. Non seulement l'émulation et la multidisciplinarité aussi. C'est-à-dire le fait qu'on puisse échanger avec des gens qui ne pensent pas comme nous et qui ne sont pas comme nous. Parce que si on est tous pareils à discuter de la même chose, ça ne va pas nous amener à des grands changements.
Ce que vous racontez dans votre livre, lors d'une première réunion à Palo Alto, en Californie, vous trouvez des ingénieurs, des chercheurs qui échangent, qui discutent.
Ouais. Ben oui, c'est cette discussion qui monte. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était absolument fabuleux parce que je revenais de ce monde justement qui était cloisonné et j'arrive avec des gens qui, là, n'ont aucune raison de discuter parce qu'ils sont dans des grosses boîtes complètement différentes, concurrentes. Et finalement, sur un sujet, il y a cette excitation qui se voit et qui se sentait et cette émulation. Donc, c'était une réunion qui était tous les mois, là. C'était fabuleux. C'est toujours fabuleux, d'ailleurs. Cette émulation existe toujours.
Vous diriez que c'est l'état d'esprit américain et pas l'état d'esprit français?
Je dirais que c'est l'état d'esprit de la Silicon Valley. Je ne dirais pas américain. Mais la Silicon Valley, c'est un lieu, c'est un melting pot. Ouais. Où vraiment, il y a tous ces gens différents qui vont venir s'éclater pour faire quelque chose ensemble, sachant qu'ils viennent d'horizons complètement différents.
C'est là que vous est venu votre goût des tenues décontractées, des chemises fantasy, Luc Julia.
Oui, j'aime bien. Bah, ça fait une petite différence.
Oui, mais c'est aussi la culture locale. Oui, beaucoup de cadres et même de dirigeants qui sont parfois en tongs même.
Par exemple, dans des boîtes comme Apple ou même Samsung, la cravate est interdite. C'est interdit, donc c'est pas une question d'être différent, c'est juste qu'on n'a pas le droit.
Donc c'est un esprit. Donc c'est américain, il n'y aura jamais de Silicon Valley en France.
On ne peut pas créer une Silicon Valley, non. On ne peut pas décréter cette émulation, on ne peut pas décréter que les gens vont travailler ensemble et vont être excités de travailler ensemble. Ça, c'est très compliqué. On peut essayer de mettre des gens ensemble, et puis on peut voir ce que ça donne, on met ça dans un bocal. Mais on n'a pas un esprit de conquête.
Et pourtant, Luc Julia, l'entreprise que vous intégrez à peu près au moment de la mort de Steve Jobs, Apple, elle n'a pas l'esprit que vous venez de décrire. Elle n'a pas l'esprit partageux.
Oui, c'est une anomalie dans la Silicon Valley. Hein, mais ça venait de ses fondateurs, en l'occurrence de Jobs. Hein. Il n'était pas très social, on va dire. Donc, effectivement, il n'avait pas la notion de partage. Et donc, dans ces réunions dont je parle, qui sont ces réunions où on allait partager, il y avait pratiquement jamais des gens d'Apple. Il n'y avait jamais des gens d'Apple à l'époque. Maintenant, je pense que ça a un tout petit peu changé avec l'époque de Cook, mais bon, avec Jobs, non, il n'y avait pas de partage.
Vous avez donc participé à l'un des grands succès d'Apple, Siri, l'assistant vocal qui a surtout les iPhones aujourd'hui. Mais je crois que vous êtes l'un des seuls à raconter les échecs d'Apple. L'histoire de Maps, l'application cartographique d'Apple, ouais. Elle est dingue.
Bah oui, c'était complètement ridicule. Hein. C'est-à-dire que Apple, justement, avec cette notion de non-partage, il pensait qu'il pouvait faire tout seul. Et donc, ce qu'avait mis Google 10 ans pour faire les maps, ils avaient, eux, décidé qu'ils allaient faire en un an. Ce qui était foncièrement ridicule, surtout sans collaboration. Donc effectivement, ça a été un échec cuisant qui s'est traduit par une communication d'Apple qui a été terrible à ce moment-là. Ouais. Des gens très très énervés. Et puis ces maps faisaient n'importe quoi.
N'importe quoi, mais tout le monde pouvait le voir. Vous-même, oui, sur votre trajet quotidien, vous voyez que ça décrivait un itinéraire qui n'était pas le bon.
Et puis on le disait, mais bon, comme il y avait 2-3 personnes à la tête de cette particulière entreprise qui avait décidé que ça devait marcher... Ils ont poussé jusqu'à ce que ça soit un gros, gros échec.
Bon, mais vous développez Siri, et pour revenir à la... Pardon de cette obsession, mais à la comparaison française, vous n'auriez pas pu inventer Siri en France ?
Inventer Siri, peut-être pas, je sais pas, mais le développer... Je pense pas, non. Justement, pour pouvoir avoir accès à différents talents et pouvoir les exciter, et pouvoir avoir cette émulation entre ces différents groupes qui ont permis de créer Siri, je pense que ça aurait été compliqué. L'inventer, avoir l'idée, je pense que ça aurait été possible. En fait, l'idée date de 97, hein, donc c'était bien avant que ça soit développé par Apple, puisque c'était dans le centre de recherche où j'étais, qui s'appelait SRI, Stanford Research Institute. Ouais. Et l'idée, donc, date de bien avant. Et donc, l'idée, l'émulation et la création datent vraiment des années 90.
Et aujourd'hui, évidemment, il y a de multiples objets qu'on commande par la voix. Et c'est aussi ce que vous faites chez Samsung. C'est le business ou la passion des objets connectés. Racontez-nous.
En fait, j'ai deux amours. J'ai le speech, donc la reconnaissance vocale, ouais, et les objets connectés. Donc, ça concerne mon robot qui faisait le lit. En quelque sorte, c'était un objet aussi. Donc, ces deux amours-là m'ont fait faire du ping-pong entre les deux. Et là, en ce moment, effectivement, chez Samsung, je m'occupe plus des objets connectés et d'essayer de rendre ces objets intelligents, justement. Donc, on a fait des assistants vocaux. Maintenant, on va essayer de faire des assistants, de faire en sorte que les objets soient des assistants.
Vous restez avec nous, Luc Julia, vous nous direz pourquoi dans un instant vous trouvez qu'on raconte beaucoup de bêtises. C'est l'objet de votre livre sur l'intelligence artificielle.
Europe 1, c'est arrivé demain. 1.
Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé demain sur Europe 1.
Avec Luc Julia, vice-président de Samsung, co-créateur de Siri, pourquoi dites-vous, Luc Julia, que... C'est le titre un peu provocateur de votre livre, que l'intelligence artificielle n'existe pas.
L'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est l'intelligence artificielle dont on nous rebat les oreilles depuis une petite dizaine d'années maintenant, depuis 5 ans vraiment, et où les gens, viennent nous parler de ça dans les médias et dans des bouquins, alors qu'ils n'en ont jamais fait. Donc c'est des gens très bons en marketing, c'est des gens très bons pour se marketer eux-mêmes, mais bon, c'est pas la vraie intelligence artificielle. La réalité, c'est que quand on regarde ce que c'est que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, ce ne sont que des mathématiques et des statistiques. D'accord ? Ce sont les méthodes qu'on utilise depuis 1956, hein, donc ça fait 60 ans qu'on fait ça. Et donc là, le constat, c'est de voir que vraiment... Ça n'a strictement rien à voir avec de l'intelligence. Et donc, du coup, j'ai repris l'idée de Descartes qui disait « cogito ergo sum », « je pense donc je suis ». Et bien là, l'intelligence artificielle, elle ne pense pas. Et donc, elle n'est pas.
C'est quoi alors ? Donc, c'est la puissance de calcul qu'on a augmenté, c'est ça le...
On a augmenté la puissance de calcul, on a augmenté surtout les data, les données, les données qui sont disponibles pour pouvoir entraîner les algorithmes. Donc, Internet a fait beaucoup pour ça. Hein. En 93, 94, Internet arrive, c'est super, il y a plein de données partout. Ça permet d'avoir des bien meilleurs algorithmes, mais fondamentalement, c'est exactement la même chose que ce qu'on faisait il y a 60 ans. Ouais. Et donc, fondamentalement, ça n'a rien à voir avec l'intelligence.
Pour résumer, plus de data, plus de calculs, mais pas plus de raisonnement et pas plus d'intelligence.
Pas d'intelligence, du tout.
C'est pour ça que vous préférez qu'on dise intelligence augmentée.
Je veux garder l'acronyme, enfin IA, ouais. Donc je garde ça, mais intelligence augmentée, c'est surtout que pour montrer que l'IA qu'on connaît aujourd'hui, c'est un outil. Ça nous augmente, nous.
C'est pas pour remplacer les humains.
C'est pas pour nous remplacer.
Mais les remplacer au volant, par exemple, pour prendre cet exemple de la voiture autonome, oui, ça va arriver quand même.
Alors, ça va pas nous remplacer, parce que la vérité, c'est que jamais il y aura une voiture autonome avec les techniques actuelles qu'on développe. Jamais. Complètement autonome, ça n'existe pas. Vous mettez une voiture autonome sur le rond-point des Champs-Élysées, elle va pas avancer très vite. Hein. Ça va pas bien se passer. Donc, il y a plein de cas, il y aura toujours des cas ou jamais la voiture sera capable de prendre des décisions que nous, humains, on va pouvoir prendre. Parce qu'on va pouvoir regarder la personne à côté, par exemple, des choses comme ça. Enfin, il y a des choses qui se passent dans la voiture qui sont impossibles à automatiser. Donc, de toute façon, la voiture complètement autonome, c'est pas possible. Ceci dit, la voiture beaucoup plus sécurisée et avoir beaucoup moins d'accidents dans les voitures, ça va arriver grâce à ce qu'on appelle la voiture autonome. Moi, je préfère donner une voiture autonome à mes enfants que d'avoir une voiture normale, parce qu'elle va leur éviter des accidents s'ils textent au volant ou s'ils boivent un coup.
Mais vous voulez dire qu'il y aura toujours quelqu'un au volant ?
Il y aura toujours quelqu'un, pas forcément au volant, mais toujours quelqu'un en contrôle.
Ça en peut contrôle, être, vous pouvez imaginer, avec un frein de secours un peu plus que ça.
Exactement,
oui.
Non, mais ça peut être exactement quelque chose. Quelqu'un qui va être dans le cloud, va être quelque part, qui va avoir le contrôle de votre véhicule au cas où on trouve un cas qui n'est pas prévu par la voiture autonome.
Alors, à part ça, dites-nous, Luc Julia, on va prendre une échéance assez courte, disons dans les 10 ans à venir, qu'est-ce qui changera le plus pour notre environnement, pour notre envie quotidienne, notre vie quotidienne, pardon, et quels pourraient être nos espoirs déçus, pour reprendre l'idée des bêtises qu'on raconte sur l'intelligence artificielle et qui ne se réaliseront pas.
Donc, pour ce qui est de la vie quotidienne, ce qui va se passer certainement, on va avoir justement ces objets tout autour de nous qui vont être de plus en plus capables de nous rendre des services. Ça va être des objets donc, que j'appelle intelligents. Les objets vont communiquer entre eux, vont interagir entre eux pour nous rendre des services.
Non, donc, ça nous libérera de tâches, par exemple.
Oui, par exemple, bon, je vous donne un exemple simple, j'ai 53 fenêtres chez moi. Si j'avais
très grande maison.
À fermer toutes mes fenêtres tous les jours, alors que là, aujourd'hui, elles se ferment automatiquement quand le coucher du soleil arrive, elles se ouvrent automatiquement quand le lever du soleil arrive.
Donc, c'est à San Francisco, je précise.
Ouais. Et donc ça me permet juste de sauver 5-10 minutes par jour. Et donc des choses comme ça, plein de choses comme ça. Donc ça, c'est, je pense, la vie quotidienne. Maintenant, les choses beaucoup plus importantes de l'IA, ça va être des progrès en médecine, par exemple, des progrès en transport. Donc ça va être très clair. Maintenant, ce qui ne va pas arriver, et donc ce qu'il ne faut pas raconter, c'est tous les fantasmes qu'on a sur le remplacement, justement, de l'humain. Évidemment, il va y avoir des problèmes d'emploi, dans le sens où des emplois vont être remplacés. On va changer, on va s'adapter. Donc il ne faut pas raconter que les robots vont nous remplacer et qu'on va tous être au chômage à cause de l'IA. Donc ça, c'est pas vrai. Et puis, il ne faut pas non plus donner des faux espoirs où les gens vont croire que ces machines magiques vont pouvoir faire toutes les choses qu'on raconte qu'elles puissent faire. Fondamentalement, elles vont faire seulement ce que nous, on va leur demander de faire. Donc, il faut faire juste très attention à ce qu'on raconte, parce qu'il y a un danger de l'hiver de l'IA. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un danger de faire en sorte que ces recherches s'arrêtent et que les bonnes choses comme les recherches médicales s'arrêtent parce qu'on n'y croit plus.
Luc Julia, un dernier mot. Vous le racontez au début de votre livre. Pourquoi les hasards de la vie et votre esprit mathématique vous ont longtemps laissé croire que vous alliez mourir le 3 novembre 2013 ?
Ah ben c'est une histoire pas tellement rigolote, mais c'est la vie. Mon père est décédé quand j'avais 11 ans, et le jour de l'enterrement, j'étais devant la tombe, évidemment, et c'était la tombe familiale où j'avais la date de mon père, la date de mon grand-père. Et je me suis rendu compte ce jour-là que les deux avaient vécu exactement le même nombre de jours.
Exactement 17 469 jours.
Ouais, exactement.
17 pour 469 votre père jours. Et votre grand-père.
Exactement. Donc
qui étaient morts de la même maladie.
Qui sont morts tous les deux d'un cancer du côlon. Donc moi, évidemment, dans l'esprit d'un gamin de 11 ans qui est un peu choqué par la mort de son père, je me suis dit, moi aussi, ça va être 17 469 et je vais mourir d'un cancer du côlon le 3 novembre 2013. Voilà. Donc c'était en même temps un driver. Hein. C'était quelque chose qui m'a poussé dans la vie, parce que je me suis dit, j'ai plus de temps, on y va.
Et le 3 novembre 2013, vous étiez où ?
J'étais malheureusement dans un avion et j'étais persuadé que les 200 personnes, les 300 personnes qui étaient dans l'avion avec moi allaient tous mourir à cause de moi. Donc j'étais dans un avion entre Paris et San Francisco.
Ouais. Évidemment, ça ne s'est pas produit. Merci beaucoup. Merci Luc Julia. L'intelligence artificielle n'existe pas, ça se trouve toujours. C'est chez First Edition. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, on parle des 30 ans de Tiananmen, massacre toujours tabou en Chine. Le dissident Liao Yiwu en sait quelque chose. Il a fait 4 ans de bagne pour un simple poème sur Tiananmen. Exilé en Europe, il témoigne et dénonce aujourd'hui la situation des droits de l'homme en Chine. Liao Yiwu, avec nous dans un instant.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain. Europe 1.
La suite de cette arrivée demain, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Yao Yiwu.
Yao.
Écrivain, poète et musicien, vous vivez en exil en Allemagne depuis 2011 après avoir purgé 4 ans de prison en Chine, 4 ans de camp de travail pour un simple poème sur le massacre de Tiananmen en 89, un poème reportage diffusé clandestinement dans toute la Chine intitulé « Le Grand Massacre ». Vous avez témoigné de ce goulag chinois dans un livre majeur « L'Empire des Ténèbres ». Aujourd'hui, dans « Des balles et de l'opium » aux éditions Globe, vous faites parler ce que vous appelez les oubliés de Tiananmen. Qui sont-ils? Où sont-ils? Ceux qui sont sortis de prison n'ont toujours pas retrouvé une vie normale?
Ces gens-là se trouvent toujours en Chine. Beaucoup d'entre eux mènent une vie très très dure. Petit à petit, ils sont oubliés par la population, par le monde. C'est pourquoi ce livre permettra qu'on se souvienne de qui ont été ceux qui sont tombés sur la place Tiananmen et allés en prison. Ça fait justement 30 ans maintenant, 30 ans depuis le massacre. Et donc, il faut se souvenir d'eux.
On voit que le pouvoir chinois actuel est impitoyable à l'égard de ceux qui ont participé aux manifestations de 89 à Tiananmen. Et pourtant, Xi Jinping, l'actuel numéro un chinois, n'était pas au pouvoir. Il est lié à cette histoire-là, à votre avis ?
Évidemment, à l'époque, c'était la politique de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping a dit, si vous demandez la démocratie, eh bien, on réprime.
Et
les dirigeants ont dit, si on tue 200 000 personnes, on acquérera 20 ans de stabilité. Et cette attitude a complètement transformé la situation en Chine. À partir de là, on a donné de l'opium. L'opium, c'était la recherche de la fortune. Et maintenant, la croyance des Chinois, c'est l'argent, gagner de l'argent. Et en plus, au début, les puissances occidentales ont émis des sanctions contre la Chine. Mais petit à petit, l'Occident aussi a été attiré par le marché. Et tout le monde a avalé l'opium que proposait le gouvernement chinois. Mais d'une certaine façon, le monde entier est devenu plus cynique en même temps que la Chine. Maintenant, la Chine est à la fois un pays de dictature, mais c'est aussi le plus grand marché du monde. Et donc, les hommes d'affaires n'ont pas envie de quitter le marché chinois. C'est ça que je veux dire par l'addiction à l'opium de l'argent.
Et donc, le régime chinois n'a lâché sur rien sur le plan des libertés. Il n'y a eu aucune ouverture depuis ces années-là.
La Chine d'aujourd'hui
a
emprunté beaucoup de hautes technologies chinoises. Ils savent maintenant tout surveiller par le téléphone, par les micros, etc. Et donc en Chine, maintenant, il y a une espèce de surveillance absolue. Et cette surveillance absolue, ils sont en train de vendre la technologie à l'étranger. Après, c'est le monde entier qui n'aura plus aucun sentiment de sécurité. Il y a 30 ans, le peuple espérait la démocratie, mais ils ont été écrasés. Le problème, c'est que l'Occident a cessé de réclamer la liberté pour la Chine. Ils ont pactisé avec le gouvernement chinois. Le problème, c'est que si vous n'exportez pas la démocratie, la Chine va exporter la dictature.
Vous ne trouvez pas donc que les pays occidentaux sont à la hauteur face au régime chinois? Qu'avez-vous pensé de l'accueil fait à Xi Jinping il y a 10 jours en Italie puis en France?
Les échanges entre gouvernements, les échanges entre commerçants, c'est du même ordre. Le problème, c'est que les valeurs principales comme la liberté, la démocratie, ne sont pas là. On aurait pu proposer, par exemple, la libération de certains cas particuliers. Je sais que l'organisation Reporters sans frontières fixe son regard sur le cas de Huang Qi et qu'il demande régulièrement sa libération. Et je trouve que la France devrait aussi, par exemple, demander la libération de Huang Qi. Et le demander très clairement. Maintenant, la maman de Huang Qi a 86 ans. Et maintenant, elle est complètement encerclée. Et il y a même deux policiers qui dorment dans sa maison pour éviter qu'elle aille réclamer la libération de son fils. Mais on a peur que Huang Qi meure en prison. Et dans ce cas-là, cette nouvelle tuerait sa mère. Je trouve que le gouvernement français, qui possède d'une ONG comme Reporters sans frontières, devrait suivre cet exemple et demander sa libération.
Qu'est-ce qui peut faire bouger la Chine sur le plan des libertés ? On dit que Xi Jinping aujourd'hui est l'homme le plus puissant que la Chine ait jamais eu à sa tête, plus puissant encore que Deng Xiaoping.
Maintenant, on est dans un monde mondialisé. Les relations de la Chine avec les autres pays sont assez étroites. Et donc, si on réfléchit un peu au passé, on va penser qu'il y a 30 ans, la France a accepté, comme les États-Unis, un très grand nombre d'immigrés chinois. C'est des gens qui fuyaient la répression. Ils ont tenu des réunions à Paris. Ils ont été accueillis personnellement par Mitterrand. Ils ont été accueillis par Paris. Mais 30 ans plus tard, vous voyez, la situation a complètement changé. Donc j'aimerais que cette année, à l'occasion de ce 30e anniversaire, la France se souvienne de ce slogan de liberté, égalité, fraternité, et que ce soit une année où on se souvienne et on fasse quelque chose pour que la Chine change. Moi, en tant qu'écrivain, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ma traductrice a traduit mon livre en français pour le faire connaître. Et donc, avec tout ça, on essaye de faire réfléchir les Français et qu'ils se disent « qu'est-ce que je peux faire à mon tour ?»
Merci beaucoup, Liao Yiwu, des balles et de l'opium aux éditions Globe. C'est donc ce livre recueil de témoignages qui s'ouvre par ce poème qui vous a valu 4 ans de prison, Le Grand Massacre, avec une traduction de Marie Holzmann. Marie Holzmann, qu'on a entendu à vos côtés pour traduire vos propos et que je remercie. Merci à vous deux.
Merci à vous.
Retrouvez C'est arrivé demain tous les dimanches de 9h à 10h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.